Chut, ça commence, ça commence.
Il fallait y penser. Tenir sa droite en marche arrière, c'est rester à gauche et c'est aussi, en somme, avoir son avenir derrière soi.
C'est du tarpin sur la planche, du tarpin sur la planche. Exploration sociale et sonore.
Laissez-moi. Ben, je comprends.
C'est un problème qu'on a anticipé depuis très longtemps, mais la mairie n'a rien fait.
C'est la faute à Patrick Mussi. C'est la faute à tous ces chefs du Parti Socialiste.
Allez, Marcel, on va observer la population française.
Salut à toutes, salut à tous. Du Tarpin sur la planche vous accueille pour la suite de son abécédaire marseillais en mettant ce mois-ci à l'honneur la lettre F, toujours fabuleusement vôtre dans les ondes de Radio
Radio Grenouille.
Sans oublier...
Radio Zanzine.
Et on voulait pas être un peu sérieuse là, on a dit abécédaire, pas animalerie. Bon alors, on y va ?
Ok, parfaitement madame.
Du coup, ce mois-ci, on vous fouette les oreilles en F comme...
Farandole.
Femme.
F.
Folklore.
Factuellement, nous allons fractionner l'émission en commençant par la fin. Celle qui vous attirera jusque dans les cantines de soutien, de Noailles aux Réformés. On enchaînera sur une farandole carnavalesque à base de fanfreluche et de fanfare. On vous présentera Meymouna, une femme héroïne d'un quotidien fastidieux, dans une société féroce et fondamentalement pas féministe. Puis on partira à la rencontre de filles footballeuses à Félix Piat. Après cette mise en jambe, on ira les dégourdir en musique folklorique avec du violon.
Bienvenue dans Tarpin d'appétit. Si vous avez faim et que vous pensez que la nourriture est politique, à la fois par sa provenance et par ce qu'elle représente, si vous pensez qu'on peut aussi mener ses combats à la fourchette et pas seulement à couteau tiré, alors vous devez connaître les cantines de soutien. Et si ce n'est pas le cas, Thomas vous emmène les découvrir de ce pas. Parce que la faim justifie les moyens avec...
Tarpin d'appétit, bien sûr.
Nous sommes à la cantine solidaire organisée Manifestaine par le collectif Mamba. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est le collectif Mamba et pourquoi on fait cette cantine ?
Alors le collectif Mamba, c'est un collectif qui est né en 2015 et en se proposant d'apporter un soutien aux personnes en migration qui passaient par Marseille à ce moment-là, et c'est assez actif. Voilà. Il y a toujours des choses à faire.
Il y a souvent des cantines qui s'organisent du coup. Il s'agit de rendez-vous réguliers, comme ça peut être dans la MIFA tous les mois ou ponctuellement comme ici à Manifestaine pour des soirées spécifiques. Et en fait, ben, une cantine solidaire, tout simplement, c'est le fait de se retrouver soit des bénévoles, des gens qui ont envie de mettre un peu la main dans la pâte littéralement, sinon les directs intéressés souvent comme dans la MIFA. Et il s'agit de préparer à manger pour la soirée et permettre aux gens de venir passer un bon moment, soit pour des occasions spécifiques, comme par exemple ce soir pour la présentation d'un film sur Calais, ou juste pour le midi, pour le soir. Et tout à prix libre, c'est un peu le principe qui permet que qui que ce soit puisse venir et profiter du repas. Et ça marche plutôt bien pour deux raisons, parce que justement c'est le plus ouvert possible, et des deux c'est toujours un moment assez agréable à partager. Voilà.
Brocoli sauté, doux choux, mille choux différents sautés, du riz, une tortilla aux patates avec des œufs de poule, des canards et d'oies, et après des patates et des navets sautés, et des épinards frais en salade et du pain. Avec un gros coup de main des copains de Saint-Martin-des-Crocs, de Longomar de Saint-Martin-des-Crocs, qui ont donné beaucoup de légumes et les œufs.
Souvent c'est de la récup du marché bio, attention. Ou des dons aussi, à la fois c'est des cagettes de légumes qui sont donnés. À la fois les menus, justement, ça dérive, c'est de l'inventivité, de la fantaisie sur comment l'utiliser, ce qu'on a récupéré. Et sinon, c'est aussi des menus spécifiques. Par exemple, si c'est plutôt des personnes soudanaises qui ont envie d'organiser une cantine, alors le plus souvent, ils aiment bien faire un menu, que ce soit soudanais plutôt qu'autre chose.
Voilà. Manger les épinards. C'est bon, les épinards.
Ça y est, t'as mangé? Il y a du houblon. Mon père, il dit ça nourrit le houblon.
Du coup, l'argent qui est récupéré avec le prix libre, il sert à quoi ?
ça dépend, ça change des occasions. Il y a des fois des cantines qui sont organisées pour des questions spécifiques, pour des besoins spécifiques, comme par exemple des frais. À la fois, c'est pour des frais juridiques, pour des personnes qui ont besoin... Ben, un exemple tout bête, la traduction des documents nécessaires à une demande d'asile coûte, c'est cher, parce qu'elle doit être agréée et chaque page coûte cher. Et du coup, à la fois, une cantine, ça permet déjà de défrayer ce genre de dépenses. Et sinon, ben sinon ça peut être des cantines ou des soirées de soutien pour les personnes qui font à manger. Ça permet d'avoir aussi un peu de sous de poche, comment dire. Et sinon, ça peut être du soutien au collectif. Normalement, l'info, elle passe. Elle peut passer ben, sur le Facebook, par exemple. Et sinon, il y a des lieux complices. Qui peuvent être bah justement dans la MIFA, Manifesten, la cantine du midi, la Casa Consola souvent. Et donc dans la programmation de ces lieux-là, il y a aussi marqué quand il y a cantine et pour quelle raison. Venez nombreux. C'est toujours très agréable en tout cas, c'est toujours un bon moment.
Autonomisation de la
vaisselle.
Est-ce que
demain, t'as
besoin d'aide pour la
vaisselle?
Alors dans la MIFA, c'est quoi?
Alors, c'est un espace d'éducation populaire et de soutien à la création artistique, mais pas que, la création de tout projet en fait alternatif. Et en tout cas, quand je dis alternatif, c'est pas forcément que politiquement, c'est aussi en termes de méthodologie, de participation des gens, etc. L'activité la plus visible, c'est surtout quand même le soir, quand on organise des concerts, des soirées de soutien, etc. Mais en fait, il se passe aussi plein de trucs la journée, donc comme aujourd'hui la cantine.
Est-ce que tu veux de tout?
Ouais. Tu veux servir la soupe, moi je sers le reste.
Ouais, vas-y, je sers la soupe.
C'est la cantine pour... Alors, on mange.
C'est une cantine pour le projet d'un bateau. D'un bateau qui est en ce moment à l'estac, un bateau qu'on a ramené du Portugal.
Ah, la barquelle.
Là, le barquelle, ouais.
Alors, le barquelle, ok.
Tiens, voilà ta soupe.
Et du coup, le repas, c'est une soupe aux champignons, aux patates et aux poireaux, avec mixé, avec un taboulé libanais et des beignets de légumes frits.
Il y a des choux, des cassettes, voilà.
Alors le projet de cantine, ça, en fait depuis le début ici, il y avait une belle cuisine, bon, qui a été retapée, etc. Et sauf que c'était vraiment pas évident de porter le projet de la DAR et à côté de s'investir dans la cuisine. On a toujours cherché quelqu'un ou un groupe de personnes pour porter ça. Le lieu est aussi vraiment fait pour ça et il y a besoin dans le quartier. Enfin, les gens sont contents, quoi, tout simplement.
Ouais, c'est fraise banane menthe. Est-ce que vous voulez un verre avant de partir? Attention, ça va couler. Faut que tu la penches comme ça.
Un verre en plastique.
Tu veux du coulis dans ton tablier?
Ça, on prend celui-là.
Je dirais que depuis un an et demi, on a commencé à... On avait accueilli, en fait, une jeune fille en service civique qui, elle, était cuisinière, avait de grands projets, qui a fait pas mal de taf, de recherche et de démarchage un peu de quelle manière, en fait, est-ce que la cuisine, elle pourrait être mutualisée entre différents collectifs. Et on est arrivé rapidement à ce fonctionnement de une fois par semaine, donc le mardi midi. Il y a des collectifs ou des associations qui peuvent utiliser la cuisine. Nous, on la met à disposition. Enfin, c'est pas une mise à disposition gracieuse, mais c'est rien du tout, quoi. Et eux, bah, ils font... C'est à prix libre, généralement, à chaque fois. Je pourrais pas te citer exactement, parce que maintenant, c'est vraiment régulier. Genre, ils se sont répartis une espèce de collectif des cantines, où il y a un collectif, c'est tous les premiers mardis, l'autre, c'est tous les deuxièmes, etc. Et de temps en temps, en fonction des mois, il y a un cinquième mardi. Et du coup, là, quand on a l'énergie, il y a des bénévoles de la DAR qui s'en occupent.
Non, mais part en bateau.
Bon appétit. Bon appétit.
Alors après, on a pas mal réfléchi à le refaire plus souvent. Mais c'est vraiment compliqué. Mais vu comment ça se passe, c'est quand même vachement faisable. Et ce qui serait l'idéal, en fait, ce serait de voir plein de petites cantines comme ça se faire un peu partout. Et que ça puisse se coordonner de manière à ce que tel jour c'est à tel endroit, tel autre jour c'est à tel autre endroit.
Franchement, c'est
hyper bon. Avec plaisir. De toute façon, c'est vraiment, ça exploite vachement l'aspect social en fait de la bouffe, du repas.
C'est très bon, hein.
Super. Donc, organise les cantines, ils jouent le jeu un peu de. Là, je vais un peu loin, mais le côté un peu théâtral quand même, parce qu'ils prennent ton nom et ils t'appellent quand c'est l'heure de ton entrée, de ton dessert. C'est à la fois un peu. le why et en même temps le... En même temps, théâtralisé. Ouais, ça m'inspire la bouffe. Je pense parce que je suis midi, je commence à avoir faim. J'attends qu'on m'appelle.
Je pense qu'on refera de temps en temps des cantines ou des trucs comme ça pour rencontrer du monde et puis faire connaître le truc.
La Casa Consolaire. C'est une cantine associative sur laquelle il y a d'autres projets qui viennent se greffer, comme des concerts, des expositions, des projections de cinéma, des cours, des ateliers, des prêts d'espace, etc. Mais à la base, c'est une cantine qui vise à nourrir les gens le mieux possible avec des produits de la meilleure qualité possible, avec un coût le plus accessible possible.
On a les produits, on a tout en vrai.
Ça fait 7 ans que ça existe. Il y a des salariés en cuisine et dans les bureaux, mais ça repose beaucoup sur un système de bénévoles.
Est-ce que vous faites des cantines de soutien? Dans quel cadre? Est-ce que vous accueillez des collectifs?
Oui, on fait des cantines de soutien pour les structures qui sont amies. Là, on va faire une soirée de soutien pour la déviation qui cherche à l'Estac, qui cherche à acheter son local et qui fait une levée de fonds. Il n'y a pas de règles, c'est pas comme d'autres structures, c'est plutôt à la demande et sinon on a des disponibilités. Par exemple, on a fait comme bouffe de soutien, on a fait une bouffe de soutien pour le carnaval. Voilà, l'idée de ce lieu-là, c'est de mettre à disposition notre cuisine et tout le matériel pour cuisiner un peu de manière pro, ou en tout cas pour un grand nombre, à disposition des gens qui en ont besoin. C'est intéressant de travailler sur la nourriture parce que c'est un besoin vital et que c'est quelque chose qui ramène les gens. Du coup, c'est une manière conviviale de bien se nourrir, ce qui est assez important.
Grand l'appétit va tout va, vis dans les futailles, à nous la répaille, quand l'appétit va tout va.
Quand l'appétit va tout va, quand l'appétit va tout va, vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent, quand l'appétit va tout va.
Vous pouvez retrouver tous les lieux et leurs rendez-vous ainsi que les associations et collectifs cités sur notre page Facebook et sur notre audioblog, en espérant vous y retrouver avec un solide coup de fourchette. Ces lieux ont également été le siège de la préparation du carnaval. C'est en effet dans des endroits conviviaux que la lutte prend forme, car le carnaval n'est pas seulement festif, il est aussi politique. Surtout quand c'est le carnaval indépendant de la plaine. C'était le dimanche 18 mars et il y avait des chars de Réformés, Noailles, la Belle de Mai et la plaine bien sûr. On y était, c'était beau, c'était grand.
Je m'appelle Kamal, moi j'habite à Marseille depuis mes 5 ans, donc depuis 1995. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a besoin de revenir à certaines sources. S'il y a un carnaval depuis, je sais pas combien de temps, depuis le Moyen-Âge, je suppose, on brûle un carmentran, etc., c'est parce qu'on en a besoin en fait, parce que les gens en ont besoin. Aujourd'hui, là, au carnaval de la Plaine, on est en 2018, tous les ans, ça se passe exactement de la même manière, et tous les ans, il y a... autant de monde, voire plus encore. Donc c'est vraiment important. Politiquement, pourquoi c'est important? Parce qu'on brûle symboliquement, on brûle ce qui nous rend fous en fait, ce qui nous oppresse, ce qui nous opprime.
Elle a de la salade sur la tête. Elle a de la salade sur la tête. Elle a de la salade. Elle a de la salade. Elle a de la salade sur la tête.
Ce que j'ai à dire, c'est qu'on est tous rassemblés, des gens qui ne se connaissent pas. Beaucoup de gens qui viennent pas de Marseille aussi, ça fait plaisir. Ça veut dire que les gens qui viennent à Marseille, on parle beaucoup de gentrification, tout ça. Parce que être Marseillais et vivre dans cette ville, c'est en permanence, c'est vrai en plus, hein. Tous les jours, une lutte politique et une lutte sociale. Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui est à Marseille est politisé, forcément, dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être. Et aujourd'hui, le carnaval montre bien à quel point on est politisé, à quel point on a besoin de se politiser, à quel point on a besoin de lutter.
Faut absolument que tu vois ce mec qui est déguisé en super-héros Heineken, regarde.
Mec, t'as tout donné, t'es trop beau.
Merci super. Beaucoup.
Franchement. T'es tellement beau, on dirait mon fils.
Aïe, aïe, aïe.
Faire le carnaval, danser, se déguiser, c'est une lutte en soi. C'est déjà une lutte sociale parce que symboliquement, on est à Noailles. Noailles, c'est un des quartiers les plus pauvres de Marseille. Il y a beaucoup d'Arabes, il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup de... C'est très mixte, mais il n'y a pas de Blancs. Et donc, ce carnaval-là est pour montrer aussi qu'en réalité, il ne faut pas oublier qu'on est tous ensemble. Voilà. Et c'est très important pour moi. Moi, je suis d'origine algérienne, par exemple. Ça me fait un bien fou de voir tout ce monde-là venir à Noailles. Parce que moi, j'ai vécu dans cette rue, en plus. Cette mixité-là, elle vient qu'avec la force, pas forcément violente, mais avec la musique. C'est une forme de violence, certes, mais c'est une forme de lutte. Et ça fait surtout du bien de voir des gens qui luttent. Peut-être certains sont inconscients ou bien ils ne savent pas qu'ils sont en train de lutter, mais en tout cas, tout le monde lutte. C'est l'extase, ça fait un bien fou, quoi. Regardez le Caramontran un petit peu, il me semble que c'est pour se moquer de la politique de la ville. Les Caramontrans de Carnaval de la Plaine n'ont jamais été très spécifiques. On prend un symbole pour montrer la stupidité et l'absurdité de tout. Donc le Caramontran est là pour reprendre ce symbole-là et leur remettre un doigt d'honneur. Mais tous ensemble en dansant. La Plaine, ça va être ils appellent ça requalifié. Et moi, j'ai vécu à La Plaine pendant très très longtemps. Je connais La Plaine depuis le cours Julien et La Plaine depuis que je suis petit. C'est pas que j'ai envie de garder tel quel. Je pense que la plupart des Marseillais veulent pas le garder tel quel parce qu'il y a des problèmes de circulation, il y a beaucoup de voitures. Donc, il faut le changer. Le problème qu'il y a, c'est que la ville, avec un cabinet d'architecture parisien, comme par hasard, qui connaît absolument pas le quartier, veulent changer ce quartier et veulent changer surtout le marché qu'il y a. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est de manière indirecte exproprier tous les gens qui étaient là. Ils veulent nous remplacer, vraiment. Ils veulent plus de pauvres. Donc ils vont faire un marché ridicule. Et là, j'insiste sur le mot ridicule. C'était un marché qui était un poumon pour la ville. Le marché de la Plaine, tout le monde le connaît. Tous les Marseillais, et pas que les Marseillais. Ils veulent l'enlever pour en faire une espèce de marché. Un peu comme au Vieux-Port, tu sais, avec des savonnettes, des faux savons de Marseille, qui puent la lavande chimique, quoi. Mais c'est ridicule, et eux, ils savent que c'est ridicule. C'est pour ça que je dis que c'est un doigt d'honneur. C'est parce qu'ils savent très bien que nous, on sait. C'est plus que la Plaine qui est en train de se jouer. C'est notre manière de vivre, notre manière d'espérer, notre manière de vivre ensemble, surtout. Parce qu'un marché, à la base, avant que ce soit un lieu d'échange commercial, c'est un lieu d'échange tout court, en fait. Et ce marché-là, ça nous permettait à nous d'accéder aux autres. Voilà, à l'autre, en fait. La politique, elle est de droite, c'est Gaudin qui le fait depuis plus de 15 ans, enfin depuis de fer, quoi, donc ça fait très très longtemps. Il n'est pas bête, Gaudin. Il sait exactement comment s'y prendre avec les Marseillais, puisqu'il est Marseillais lui aussi. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il entoure la ville, d'accord ? Il rénove ce qu'il y a autour. Moi, je viens de la Belle de Mai. À la Belle de Mai, il a fait exactement la même chose. National, la Belle de Mai, etc. C'est-à-dire qu'il va commencer à rénover en vendant des lieux vides à des investisseurs étrangers, par exemple des Qataris ou des Américains ou des Français, hein. C'est pas le problème. Mais hein. Il le vend à des investisseurs qui rénovent eux-mêmes, du coup, leur propre propriété autour du quartier en question. Donc là tout de suite, on est à Noailles. Ils ont refait la Canebière, tout bien. La Canebière, rue de Rome, le cours Julien. C'est les trois trucs qui entourent Noailles. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il sait très bien, Gaudin, que s'il s'attaquait directement à Noailles, ça ne marcherait pas. Donc il est obligé d'entourer, de faire progressivement, c'est-à-dire de faire accepter à la population que petit à petit, ça change. Voilà. Il est en train de faire partout, partout, partout à Marseille, pareil. À la Belle de Mai, avant Euromède, c'était une espèce de friche. On n'aimait pas ça. Mais sous couvert d'aider la population, soi-disant à changer le quartier, etc., qu'est-ce qu'il fait à la place ? Il met des banques, des grosses entreprises, des gratte-ciels, comme il est en train de faire aux Crottes et à côté de la Villette. À la Villette, moi j'y habitais quand j'étais petit. C'était pas bon, c'était naze, c'était effectivement la conséquence de politique de merde, de Defferre, ou bien même des années 70, etc. Mais il y avait un besoin de logement, donc on a fait des logements, etc. Sous couvert de vouloir changer ça, en réalité, ils exproprient rue de la République, par exemple. Rue de la République, ils l'ont refaite complètement. Ils ont exproprié, parce que l'État, le droit en France, c'est constitutionnel. Ça n'a pas marché, personne n'a racheté. Donc il s'est dit, tiens, au lieu d'exproprier, ce que je vais faire, c'est vendre autour des quartiers et faire accepter petit à petit l'idée, en fait, ça va changer. Et surtout, 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 comme Defferre le faisait avant, comme Jacques Chirac le faisait avant, laisser pourrir le quartier, c'est-à-dire donner des ordres pour pas qu'ils viennent ramasser les poubelles, etc. On s'énerve, en fait, on s'énerve entre nous. C'est-à-dire qu'on va dire, eh ouais, mais c'est les Arabes, eh ouais, mais c'est les Noirs. Comme ça, on se détruit entre nous. Non, c'est pas vrai. Si Noailles, c'est pourri, c'est pas à cause des gens qui y habitent ici. C'est la mairie, la ville qui fait ça pour qu'entre nous, on ait des idées malveillantes. Et surtout, surtout, pour qu'on accepte l'idée de la rénovation. Mais la rénovation, c'est la vente. Et la vente, c'est nous qui dégageons.
Merci beaucoup.
De la Paris.
Je vais ouvrir tout de suite, oui, moi aussi. J'ai envie de créer le monde, tous ces enfants.
Je pense que Marseille a toujours intérêt à un laboratoire sociologique. C'est maintenant qu'il faut regarder Marseille, parce que c'est maintenant que tout change. Plus que jamais, le carnaval montre à quel point c'est pas les gens, en réalité, le problème. Parce qu'on est tous soudés, noirs, blancs, on est tous ensemble, quoi. Voilà, on fait la fête, on danse, on boit, ou on boit pas, d'ailleurs. Il y a des mères de famille, il y a des, de tout, voilà. On est tous ensemble et personne ne s'insulte. C'est fou. Ça montre à quel point c'est pas nous le problème. Merci de m'avoir écouté.
Est-ce le jour de la justice Dieu, que va préparer
Adieu pour le carnaval.
C'est une chanson qui était chantée à l'époque plutôt de Napoléon III. Ça raconte le caramantra. Adieu, adieu ta belle jeunesse. T'as assez rigolé. Tes richesses, c'est fini. Maintenant, il faut te repentir en occitan.
C'est la chanson de fin du carnaval. C'est pour ça qu'il faut la chanter avec beaucoup d'énergie. Et il faut donner toute sa voix pour que le carabantran il disparaisse dans les feux du peuple et de tout le monde. On en a marre de toute cette politique de merde. Et on le dit, on était 200 jusqu'en 2013. On est 2000 cette année. C'est un phénomène qu'il faut faire partout. Hein. Aïoli.
Et sachez en tout cas que le combat continue, puisque comme on vient de nous l'expliquer, la plaine est bel et bien menacée. En effet, les travaux sont censés commencer en juillet, donc restez sur la brèche.
Oh là là, mais quel bazar! Ça peut plus durer, hein!
Il y a du tarpin sur la planche, vous allez voir. Émission de reportage à écouter avec ses oreilles.
Si ça continue, va falloir que ça s'arrête, hein.
Bas les masques, dans du tarpin sur la planche. Résister, c'est aussi être héroïne au quotidien. Maïmouna, porte-parole du comité des femmes sans papiers de Belgique, est un très bel exemple et Laure est partie écouter son histoire.
Salut. Moi, c'est Bas Maïmouna, je viens de la Guinée-Conakry. J'ai 23 ans. J'ai un petit garçon qui est né en Belgique ici parce que ça fait 5 ans que je suis là. Je suis arrivée ici en janvier 2013. Alors, j'étais enceinte. Maintenant, mon fils a presque 5 ans. Et j'ai un autre enfant que j'ai laissé en Guinée, qui a 9 ans, qui aura 9 ans le 3 mars. En Guinée, si je peux dire, une femme, c'est juste le nom. Femme. Disons, aujourd'hui, quand je prononce le mot femme, ça représente tellement pour moi, c'est comme si avant, je disais pas femme. Alors, quand je dis maintenant femme, c'est magique pour moi, parce que d'où je viens, les femmes représentent presque tout, mais on ne voit rien. C'est comme si ce sont des personnes invisibles, mais qui arrivent à tout faire dans la société. Dans ma culture, à moi, qui est Peul, parce qu'en Guinée, il y a beaucoup d'ethnies, mais moi, je suis Peul. Les femmes, c'est un peu dans l'islam, un peu dans la coutume, et c'est mélangé des deux. C'est un monde où elles n'ont pratiquement pas de chance de vivre une vie réelle comme les autres. Ce sont des femmes soumises, elles sont à l'écoute de leurs parents. Après leurs parents, elles sont...
Maman, ça va? Comme ça, ça va, maman?
Oui. Après leurs parents, elles sont à l'écoute de leur mari. Après leur mari, c'est leurs enfants. Et ainsi de suite. Et quand tu imagines leur vie, tu ne les retrouves pas. Tu ne retrouves pas ces femmes. Dans tout leur parcours de vie, tu as du mal à faire la différence, à dire où est-ce qu'elle est, cette femme, directement. Parce que sa vie est composée de la vie des autres. Elle est là pour les autres. Dans ma coutume, une femme ne peut pas prendre la parole. Elle ne peut pas dire ce qu'elle veut. Elle a une vie qui est écrite d'avance. C'est qu'elle doit juste suivre des lignes. C'est quand elle est née, c'est dans un pays où on excise les femmes. Donc, c'est obligatoire. Il n'y a pas de réflexion. Est-ce que je dois exciser ma fille? Elle doit le faire. C'est là. Ce n'est pas dans le Coran en tant que musulman. C'est dans notre coutume. À 13 ans, c'est pas parce que tu es à 13 ans que tu es un enfant et que tu ne penses pas au mariage. Dans toute l'éducation que tu reçois pas comment tu dois vivre en tant que femme. C'est comment tu dois apprendre à vivre en tant que femme qui va appartenir à un homme. Donc tout ce qu'on va t'apprendre, ce n'est pas comment vivre ta vie, qu'est-ce qui va te rendre heureux. C'est apprendre comment tu peux rendre les autres heureux. J'étais déjà, avant une petite fille, déjà qu'on dit ici garçon manqué. J'étais pas comme on disait toutes les petites filles dans les robes de princesse et tout ça, ce n'est pas ça. J'étais une fille un peu rebelle qui aimait jouer au foot par rapport à d'autres filles qui ne faisaient pas ça. Je me suis rendu compte que ça ne peut pas être comme ça et que je suis destinée à autre chose. Je me rendais compte que je n'aimais pas ça, mais je savais que c'était ma route. En vivant là-bas, c'est ça que je dois suivre. Le monde là où je suis née et la personnalité que j'ai a une différence totale. Alors, c'était un combat parce que j'aimais dessiner, j'aimais faire de la comédie, alors que chez moi, il n'y avait pas trop ça. Et j'aimais lire, j'adorais tout ce qui est romantique. J'aimais lire des poèmes, des livres. Quand j'étais toute petite, je n'arrivais pas à savoir pourquoi j'aimais ça, mais c'était moi. Ce qui me confondait, c'est que pourquoi j'aimais ça alors que chez moi, ce n'était pas comme ça. Alors, il y avait quelqu'un à l'intérieur de moi qui aimait ça, alors qu'à l'extérieur, cette personne n'était pas la bienvenue. Quand j'ai dit arrêter l'école... Je me suis mariée parce que c'est à cause de ça que j'ai arrêté l'école. Mon père est venu me parler, mon beau-père est venu me parler que je devais me marier, que je devais arrêter l'école, que je devais me marier avec quelqu'un qui habitait chez nous, dans le même village, qui était plus âgé que moi. Je ne voulais pas, je voulais continuer l'école, mais il se disait que l'école n'a pas d'importance. Qu'une femme, pourquoi aller à l'école? De toute façon... ce qui est important, c'est de se marier, pouvoir avoir des enfants et s'occuper de son mari et des enfants. Alors, qu'est-ce que l'école va faire dans ça? Le reste, ça n'a pas d'importance qu'une femme soit intellectuelle ou apprendre des choses de la vie, parce que ça ne sert à rien. Je regardais ma mère, parce que le mariage chez nous, il faut absolument que la femme essaye de faire soumettre ses enfants. C'est ça qui est plus dur. C'est-à-dire que même en tant que mère, si tu as vécu tout ça et que la douleur est là, si tu as une fille, tu sais déjà par quoi elle doit passer. Moi, j'aime écrire et dans mon écriture, je parle de ces femmes magiciennes. C'est comme elles te parlent de ce qui va se passer dans ta vie Et à l'époque, je croyais que c'est parce qu'elle était plus âgée que moi, elle est trop intelligente, elle comprenait tout. Mais en fait, c'est parce qu'elle a déjà parcouru tout ça et qu'elle voit que c'est sa route que je dois suivre. Alors, elle m'expliquait tout ce qui allait m'arriver et que ça se passait comme ça. Et ça m'étonnait parce que je n'arrivais pas à me rendre compte. Au moment que j'ai eu mon fils, j'étais encore petite, mais je croyais que je savais tout. C'était la collision entre être adulte et l'enfant qui doit partir et que je ne voulais pas laisser. Et que l'adulte est venu et qu'il doit occuper sa place alors que l'enfant était encore là. Je devais s'occuper de mon fils alors que je voulais déjà moi aussi qu'on s'occupe de moi. C'était la confusion. C'était des trucs comme donner le sang que je ne comprenais pas, déjà comme le sexe que je ne comprenais pas. Parce que je lisais un peu le roman en étant même mineure, et que je voyais dans mon mariage, ce n'était pas ça. Et que faire l'amour n'était pas ça. Je me sentais aujourd'hui, je me voyais, c'était une sorte de douleur pour moi. Alors j'ai découvert tout ça, et ça faisait mal. Ça faisait mal de m'imposer à devenir adulte alors que j'étais déjà pas prête à laisser mon enfance derrière moi. Je passais par l'excision et qui était présent et que je pense encore que j'ai été manipulée de deux côtés. Tu dois découvrir que je devais découvrir quelque chose, qu'on m'a promis que ça allait me faire du bien en tant que femme. Et que finalement, ça ne m'a pas apporté quelque chose. Et que cette douleur-là n'était même pas étant parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Il y avait 5 ans de différence. Après, je me suis mariée encore. Ça s'est accumulé. Je ne savais plus si c'était de la douleur ou de la tristesse qui m'envahissait en même temps. Ça faisait mal, mais je me dis oui. Oui, ça, c'est normal que ça ait été fait. Parce qu'on nous dit souvent que la femme est née pour la douleur. C'est un peu bizarre d'écouter tout ça et de dire la femme, elle est née pour la douleur. Et que je disais, ouais, si je suis née pour la douleur, alors l'excision est passée. Je pensais que faire disparaître la fausse Maïmouna et réapparaître l'autre femme qui était vraiment là, en moi, et que je me disais, il y a quelque part ici où elle peut sortir, où elle peut vivre, où c'est acceptable quoi qu'il en soit, que je sors de ma cachette et que je deviens moi-même. Et que même si ce n'est pas ma culture, que je l'adopte et que je l'aime parce que c'est comme si elle fait partie de moi. Mais ça n'a pas été le cas. Je pensais qu'en arrivant en Belgique, ça allait être autrement, mais je me suis retrouvée à des obstacles, comme on dit, qui est beaucoup plus forte, qui fait encore plus mal que celle que j'ai vue. Parce que dans mon pays, tout le monde était comme ça. Mais ici, je pense qu'il y a la possibilité qu'elle puisse vivre, mais ici non plus, je n'arrive pas. La personne que je vois non plus, j'arrive pas à me retrouver dans cette culture-là non plus. Parce que, comme disait le racisme que je connaissais pas dans mon pays, je l'ai vu ici. Je trouvais que moi, en tant que femme noire, je dois me battre pour beaucoup de choses. Je dois me battre en tant que femme, je dois me battre en tant qu'étrangère, je dois me battre en tant que noire. Je dois me battre en tant que sans-papier, je dois me battre en tant que mère célibataire. Alors ça m'a sorti beaucoup de combats de plus, dont je ne m'attendais pas, donc je n'avais pas les armes pour combattre tout ça, et que c'est devenu encore plus difficile. Donc je suis comme suspendue entre deux mondes, dont je ne veux pas celle que j'ai laissée, et celle que j'ai trouvée là est hyper compliquée.
planche.
Sur la planche.
Du tarpin sur la planche. À écouter avec ses oreilles.
Exploration sociale et sonore.
Et sonore.
Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Tarpin Sport. Bonsoir Laetitia, vous remplacez Chloé au pied levé.
Et oui, et bonsoir Pierre, ce soir nous sommes en direct du stade Julien-Olive de Martigues pour une rencontre au sommet des moins de 18 ans féminines.
Et oui, tout à fait Laetitia, entre l'équipe du Football Club de Martigues et celle que l'on surnomme désormais FFF pour fille du Félix Piat Football Club. Laetitia, on me dit que vous trouvez cette équipe tout à fait attachante.
Sans aucun doute, Pierre, l'association sportive et culturelle de jeunesse Félix Piat défend haut et fort le football féminin au sein de ce quartier du 3e arrondissement de Marseille.
Eh bien, tout le stade s'impatiente et il est temps de retrouver les joueuses qui vont faire leur rentrée sur la pelouse.
Bonjour tout le monde, là on est dans la route, on se dirige vers Martigues. On est dans le minibus, là, Tadjou, il va commencer à démarrer la voiture.
Je m'appelle Bissem, j'ai 15 ans, je joue au club Félix Piat. En fait, l'année dernière, je jouais à La Rose, et comme l'équipe de La Rose, eh ben, elle y est plus, eh ben, j'avais plus où aller, et mon père il m'a proposé de venir à Félix Piat.
C'est bon, Bissem. Julie, charge bien la 12. Ça arrive.
Salut. C'est pas grave, Inès, continue.
T'avais déjà joué au foot avant ou...
Oui, mais que au quartier.
Et alors, ça change quoi d'être dans une équipe avec des entraînements, à jouer des matchs à...
On apprend beaucoup plus de choses, des techniques. Il y a des trucs que j'ai découvert au foot qu'avant, je connaissais pas. Par exemple, les corners, je savais pas forcément ce que ça voulait dire. Comment courir avec la balle. Avant, j'étais toujours au cage ou un truc comme ça, parce que... On jouait tout le temps avec les grands et les grands ils voulaient qu'on se mette au cage en fait et qu'eux ils jouaient que sur les terrains. Là, ben, grâce à mon entraîneuse Alia, j'ai pu apprendre à courir avec la balle. Au quartier, il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent au foot. Hein. Dommage, je ne vais plus aller encore.
Leur faire venir, c'est assez compliqué. Elles finissent les cours, elles ont du mal à venir jusqu'à l'entraînement. Jusqu'au stade. On n'a pas de stade ici aussi, ça fait qu'elles doivent prendre le bus, marcher, il fait tard. Donc souvent, il y en a, elles ne viennent pas, donc on se retrouve peu aussi à l'entraînement.
Il est où le stade?
Il est au Canet. Donc il n'y a qu'un bus. Il n'y a qu'un bus qui dessert et il se termine tôt en plus le bus.
Ça fait au moins 2 ans qu'on nous donne des dates de construction pour le stade, mais à chaque fois, ils sont recalés. Ils nous recalent. Nous, on commence à perdre un peu espoir. Parce que c'est le seul outil qu'on a pour travailler. Un club de foot sans terrain, c'est un peu difficile. Et ils nous ont dit que ça a pris un peu du temps parce qu'il y avait la piscine, il y avait une piscine à côté du terrain qui a été fermée 3-4 ans avant le stade. Il y a les habitants qui ont essayé de faire une petite manifestation ils étaient révoltés de la fermeture de la piscine. C'était le seul moyen de se baigner un peu l'été, d'apprendre à nager. Et le fait d'avoir fermé les piscines, les parents, certains n'ont pas les moyens de les accompagner aux plages du Prado ou à Corbière. Du coup, je pense que de plus en plus, on est en train de nous couper les mains, les pieds, plus de piscine. Là, on a le terrain. Et franchement, pour travailler, c'est difficile.
Ben, je suis arrivé ici en 2005. Moi, j'étais entraîneur. J'ai eu un garçon qui a joué ici pendant 6 ans. Depuis, je n'ai pas bougé d'ici.
Est-ce que ce club il a une importance particulière pour le quartier?
Ben oui, parce que c'est le seul club qui est dans les alentours. Et surtout qu'il y a la cité en face, il y a beaucoup de gens de la cité qui viennent jouer au ballon ici chez nous, qui sont de chez nous.
C'est bon les filles, vous êtes prêtes? Vous avez vu la compo ou pas? Dounia à la cage, Julie arrière. Allez Cyrine hein.
L'engagement dans l'équipe féminine, c'était plus pour les jeunes filles qui se trouvaient sans rien dans le quartier. Qui avait la volonté de faire des choses, des sorties, des activités. Dès qu'on a créé l'équipe féminine, franchement, on avait une bonne équipe. C'était surtout des copines, ils étaient tous issus un peu de la cité Félix Piat. Et il y avait une bonne ambiance qu'on ne retrouve pas chez les garçons. Malgré les victoires et les défaites, il y avait toujours le sourire.
Accélère, accélère, accélère.
Camille, tu es hors jeu, Camille. Attention!
Camille, tu peux nous dire où on est?
Alors, on est à Martigues. Voilà. On est au stade de Julien Olive. Et là, on va jouer contre l'équipe de Martigues.
Tu joues depuis longtemps, toi, à Félix Piat?
Ben oui, depuis l'année dernière. Et là, je me suis réinscrit en mi-saison. C'est ma copine, elle m'a dit qu'il y avait un club. Je ne connaissais pas du tout ce club. C'est ma copine, elle m'a dit inscris-toi à Félix Piat, c'est bien et tout. Donc l'année dernière, je suis allée. J'ai bien aimé et tout. Donc cette année, je suis retournée.
Et toi, tu habites à Félix Piat aussi?
Avant, j'habitais à Marseille, mais maintenant, j'habite à Marignane.
Et tu descends deux fois par semaine pour faire les entraînements?
C'est ça. Je descends chez Marignane, Marseille, Marseille, Marignane.
Bien joué! Bien joué les bleus, super!
C'est la fin de la mi-temps. On perd 2-1, mais c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, on va remonter.
On joue ensemble, on défend ensemble, on attaque ensemble, on gagne ensemble et on perd ensemble, d'accord? Mais la défaite, on ne veut pas l'avoir aujourd'hui, d'accord? Alors on va rentrer avec un esprit de guerrier, les filles. Et on va essayer de mettre des buts, d'accord?
Je vais tout casser!
Les têtes. Les têtes, mettez les têtes aussi, c'est vrai. La tête, elle ne sert pas qu'à penser.
Comment on veut éduquer des jeunes qui descendent en bas de chez eux, s'ils n'ont pas de terrain, s'ils n'ont pas de piscine, ils n'ont que des tours avec des dealers? C'est difficile d'éduquer des jeunes dans la bonne voie et de se projeter vers un métier si nous-mêmes, si la mairie, si les collectivités ne font pas l'effort de mettre un peu de moyens dans ces quartiers. Parce qu'il y avait un peu plus de moyens qu'aujourd'hui. On avait beaucoup d'éducateurs et au fur et à mesure des années, il y a un peu la concurrence des autres clubs qui ont commencé à piquer des joueurs et il y a aussi les subventions qui ont commencé à baisser. Du coup, faire payer une licence à un jeune issu des quartiers défavorisés, c'est un peu difficile. Dès qu'on demande 100 euros à un jeune pour le pactage, les parents, souvent, ils n'ont pas les moyens ou ils n'ont pas de sous à mettre dans le sport parce qu'ils ont d'autres problèmes à côté.
C'est bien, allez, allez, on y va les filles. Hop, hop, t'es loin. Aïe. Aïe. Dommage, encore.
Et on a vu un peu les jeunes s'écarter un peu de foot, s'écarter un peu de la vie sociale du quartier, se laisser un peu embrigader par des actes délinquants, parce qu'on n'a plus de structure à leur proposer. On a quelques associations qui se battent, mais avec les peu de moyens, on peut pas essayer de sauver tous les jeunes qui sont en train de noyer dans la délinquance.
Bien Samra, encore les filles, on lâche pas.
Donc là, on arrive au club, le match est fini, nous avons passé une très bonne journée, on a joué pour le plaisir au moins, même si on a perdu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à notre club, à SCJ Félix Piat, ça se situe à Félix Piat.
C'est pas vrai, vous avez perdu 5 à 2.
Non.
La journée, c'est 5 à 2, vous
faites pas.
C'est
5 à 1 pour commencer.
Et ne croyez pas que c'est pas pour ça que je vais vous payer le restaurant. Hein.
À prier, ouais, prier, et où le temps passe, et où le temps
Marwalou de sa chanson Billet. Vous écoutez toujours du tarpin sur la planche. Merci aux joueuses de l'ASCJ Félix Piat, Dounia, Bissem, Camille, Donia, Cyrine, Shaima, Sophia, Julie, Inès et à leur encadrant Alia, Mohamed alias Dadou, Christophe et Jean-Marie, sans oublier Benjamin, leur supporter. Alors on leur souhaite une bien belle saison et un bon rétablissement à Cyrine qui s'est blessée pendant le match.
Restons dans la musique populaire, celle qui fait vibrer les prolétaires et les paillettes de la jet set, celle qui grince dans les mariages et qui a su enchanter Jean-Sébastien, Bach évidemment. Du tarpin sur la planche est parti à la rencontre de ce violoneux qui sait faire revivre le folklore français à travers Bourré, Sarabande et autres valses à trois temps.
Je m'appelle Christian Fromentin et je suis musicien. Je suis musicien, je travaille de la musique plutôt acoustique, de tradition orale, donc des musiques qui ne sont pas écrites, qui viennent vraiment d'un cheminement historique de peuples, des différents peuples. Là, ce soir, ce que je vais présenter, c'est on va être sur la francophonie, donc sur des traditions françaises, mais qui ont ensuite pu s'aimer ailleurs, donc surtout en Nouvelle-France, enfin ancienne Nouvelle-France, donc au Canada, Louisiane, et puis dans l'océan Indien, avec la Réunion. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les traditions en général, qu'elles soient européennes ou asiatiques. J'ai pas vraiment travaillé les musiques africaines ou d'Amérique latine, ça je connais vraiment très très mal. Mais par contre, les musiques asiatiques, enfin plutôt moyen-orientales jusqu'à l'Inde, et puis ensuite les musiques d'Europe, d'un peu partout de l'Europe. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup fouillées, jusqu'aux États-Unis, au Canada, parce qu'il y a vraiment une parenté forte entre l'Europe et ces pays-là. À chaque fois que tu t'intéresses quelque part à une culture, ça reflète aussi une histoire, ça reflète une langue, ça reflète. C'est toujours en lien avec un tout. Et ce qui m'intéresse, c'est ces relations aussi. Pas la musique, et puis la vie des gens, et puis l'histoire, et puis, et puis la culture en général. Moi, j'ai commencé la musique tout petit. J'ai pris des cours à 6 ans, mais voilà, enfin, j'ai toujours fait de la musique. Concrètement, je joue surtout du violon. Je suis surtout violoniste, mais j'aime bien les instruments archés. Je travaille beaucoup aussi le kamanché iranien. Et puis je joue aussi le rechak, un instrument indo-persan. Voilà. Sinon, je joue beaucoup d'instruments, genre guitare, luth, saz, oud. Les instruments aussi comme ça, donc plus orientaux. Passeport, c'est la musique. Ouais. Ah ouais, c'est plus la musique qu'autre chose, tu sais. Mm-hmm. C'est un truc incroyable. Tu peux même ne pas parler la langue du tout et tu peux passer toute une soirée même à faire des buffs extraordinaires sans comprendre ce que racontent les autres. Moi, le premier voyage que j'ai fait, en fait, seul avec le violon, j'avais 18 ans, hein, je suis parti en Irlande. Okay. Et je jouais déjà beaucoup de musique irlandaise, c'était vraiment une passion quand j'étais ado. Et c'est vrai que d'aller dans le pays, ça va donner envie d'en faire encore plus et de rencontrer des gens et d'être dans des histoires pour le coup. Parce que là, enfin, l'Irlande, c'est un pays où il n'y a encore pas longtemps, les gens vivaient dans une certaine misère quand même. Ils n'avaient pas grand-chose dans leur environnement immédiat. Donc les histoires, la musique, c'était très important pour eux. C'était vraiment un truc du quotidien qui était important et qu'ils partageaient sans arrêt. C'était un peu ce qui leur permettait même de survivre souvent aux épreuves qu'ils ont pu avoir dans ce pays-là.
La suite que je vais vous jouer, en fait, sont deux chants d'Auvergne. Mais voilà, sachant que cette tradition, elle n'est pas juste auvergnate, elle dépasse largement la frontière. Et donc, c'est la tradition des réveillés. Pour Pâques, en fait, les garçons qui étaient un peu entre l'adolescence et l'âge adulte devaient partir à la quête des œufs. Et ils partaient de nuit. Donc, c'était un truc un peu initiatique. Il fallait qu'ils apprennent aussi un répertoire chanté, qui n'était pas un répertoire qu'ils avaient appris dans l'enfance. Et bon, en général, ils buvaient un petit coup, ils avaient un peu de sous, et après, ils avaient une omelette géante entre eux. Ça parle de la mort, beaucoup. En général, ces traditions-là, elles existaient jusqu'aux années 30. Et puis, la Première Guerre mondiale, déjà, avait bien décimé l'affaire. Mais la deuxième, ça a été la fin de tout, quoi.
C'est dans le petit peuple. Ça a été ensuite pris par la noblesse, en fait, ça a été récupéré à la cour. Mais à la base, c'était un instrument vraiment populaire. Et je trouve que c'est une dimension qu'on oublie souvent aujourd'hui, quand on pense au violon, quand on aborde le violon, même quand on veut apprendre le violon. La plupart des qu'on appelait des violonneux ou des violonnaires, j'étais aussi chanteur et souvent conteur, ça allait souvent ensemble. Donc de parler de cette culture-là et puis aussi de parler de son expansion à travers le monde, parce qu'il y a eu une colonisation et le violon, c'est l'instrument quand même le plus léger, on peut facilement l'emporter avec soi. Donc, il a été sur les bateaux, il a été aussi bien dans l'océan Indien que vers l'Atlantique, donc vers l'Alaska, vers le Canada, vers les États-Unis, vers l'Amérique latine aussi. Enfin, on le retrouve partout, le violon. Il y a quand même maintenant des traditions anciennes qui viennent de toute cette expansion de la France à travers le monde. Bon, c'est pas pour faire de la pub de la colonisation, hein, franchement pas, mais c'est plus pour parler de, voilà, il y a un instrument, il y a une tradition chantée qui vient du petit peuple et comment ensuite elle a voyagé, comment elle s'est frottée aux autres cultures aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges et donc de créativité avec ça.
L'autre l'attache, l'un lui crache dessus, l'autre le frappe, l'un lui crache dessus.
Se réveiller en soirée, c'est une chose, se réveiller en ouvrant grand les yeux, c'est mieux. La trêve hivernale s'achève, de la ZAD en squat, les expulsions se préparent et à Montpellier, des étudiants qui occupaient la fac de droit ont été tabassés par un groupuscule fascisant, comme ça a été aussi le cas à Lille 2. Pendant ce temps-là, à Marseille, le bastion social des fachos s'est installé. Il est donc temps de croire en notre force collective et de se mobiliser tous ensemble. On espère en tout cas vous avoir donné la niaque, parce qu'il nous reste
du tarpin sur la planche.
Sa niaque aux manettes, qui nous suit tout au long de l'émission, nous honore et on l'en remercie. Il s'agit de Sébastien. Merci aussi à celles et ceux qui ont prêté leurs mots. Et du tarpin sur la planche poursuit sa route, fera un point G le mois prochain pour vous faire grésiller vos oreilles à l'heure convenue sur Radio Grenouille et Radio Zinzine. D'ici là, vous pouvez nous écouter à l'infini sur notre audio blog hébergé par Arte Radio et nous partager généreusement. Le mot de la fin sera donné par Charles Aznavour, formidable.
Bon allez les fripouilles, on vous bisouille sans bavouille.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable.
J'ai trouvé que moi, en tant que femme noire, je dois me battre pour beaucoup de choses. Je dois me battre en tant que femme, je dois me battre en tant qu'étrangère, je dois me battre en tant que noire, je dois me battre en tant que sans-papier, je dois me battre en tant que mère célibataire.
Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir. Désirable.
Ce qui serait l'idéal, en fait, ce serait de voir plein de petites cantines comme ça se faire un peu partout.
Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable.
J'ai pu apprendre à courir avec la balle. Il y avait pas, enfin, au quartier, il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent au foot. Hein.
You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables.
Faire le carnaval, danser, se déguiser, c'est une lutte en soi. C'est déjà une lutte.
Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable.
Leur permettait même de survivre souvent aux épreuves qu'ils ont pu avoir dans ce pays-là.
Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love?